7h14, tu nous parles d'abord du secteur bancaire qui s'oriente vers le conseil pour attacher les clients.
Oui, et parlons de la semaine bancaire. Hein. Présentement, ben oui. Paul, c'est la grande messe des banques canadiennes. Les PDG sortent avec les résultats, s'expliquent et disent aux actionnaires, voici ce qui se passe. Et quand tu regardes des orientations stratégiques, quand tu regardes vers quoi on s'enligne, on voit qu'ils ont toute une propension à lancer le message du conseil. Et là, j'ai eu une réflexion. Tous les Québécois ont une propension à être infidèles au niveau du prêt hypothécaire. Tu dis, OK, je veux négocier un taux, puis là, tu vas voir ta banque, puis tu dis, on a une belle relation ensemble, et ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais le voisin m'offre plus, puis là, on se... Mais le conseil, c'est pas pareil. Une fois que tu as tes billes à quelque part, tu veux y laisser là, tu veux parler à ton conseiller, tu veux établir une relation long terme parce que c'est de la confiance, c'est tes projets, c'est ta retraite. Donc, c'est là qu'on veut aller. Parce que c'est là qu'est la valeur future. Le prêt hypothécaire, c'est devenu pour les gens une transaction du type « Je vais à la banque, je contracte un prêt de 300 000 et voilà, je prends le meilleur taux, je m'en vais. » Mais si tu es capable d'attacher le reste, tu crées une relation long terme. Puis là, tu peux négocier puis célébrer tes noces de papier avec ton banquier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Laurentienne a viré conseil. C'est là qu'il y a de l'argent à faire. C'est là que tu attaches ton client. C'est là qu'il va prendre une carte chez vous, les assurances de compte, à marge de crédit. C'est là qu'il va aller peut-être dire, ben, tant qu'à être là, je vais prendre aussi mon prêt hypothécaire. Donc, la relation avec ton banquier, au niveau personnel, l'amour que tu portes à ton conseiller, ça influence ta propension à aller voir ailleurs au niveau du prêt hypothécaire. D'ailleurs, la Banque nationale a parti une affaire qui s'appelle NatGo. Ça, c'est juste du marketing, Paul. Mais on s'est rendu compte que le client là, a une vision beaucoup plus simpliste qu'on pense des finances personnelles.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire qu'il ne veut pas nécessairement regarder des analyses techniques, puis voir ses frais de gestion, puis penser au secteur macro. Puis... On s'est rendu compte d'une chose. Le client veut savoir, est-ce que je suis dans la bonne direction? Et est-ce que je fais les bonnes choses? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Alors les banques ont dit, on va simplifier ça. On va créer des systèmes avec des noms marketing, des tableaux de bord qui dit « Tu veux aller acheter un bateau l'année prochaine pour 20 000 mets tant par mois de côté, puis avec tes placements et tes investissements, on va te mettre ça dans nos placements BNI, Banque nationale d'investissement, et là, on va te dire, selon ton profil d'investisseur, il y aura 6 portefeuilles possibles, puis voilà, tu sais. » On va simplifier ça à outrance pour permettre au client de dire « Ton objectif, c'est de prendre ta retraite à 60, ton objectif, c'est de t'acheter une maison à tel âge, d'économiser un cash down, voici combien il faut que tu mettes par mois, voici où t'es rendu, voici où sont tes rendements, t'es-tu en retard, t'es-tu en avance, faut-tu que tu contribues plus puis moins, that's it. » C'est ça qu'on a découvert. On a découvert qu'on a surpensé pour le client. Excuse-moi le verbe, je l'ai inventé. Là. On est allé dire « Le client veut plus qu'il veut vraiment. » Nous, dans le fond, on est allé trop loin. Il faut revenir à la base. Encourager le client à épargner, puis une fois qu'on l'a encouragé, ben l'orienter de façon très simple. On s'occupera des détails complexes. Mais pour lui, il faut que ce soit un tableau de bord extrêmement simple. Est-ce que je suis en ligne avec mes objectifs? Oui ou non?
J'ai-tu des rendements pas pires? Puis comment ça évolue?
Exact. That's it. Faut pas aller plus loin que ça, Paul. Pour la majorité du monde, c'est assez.
Hier, on parlait du fameux panier d'épicerie qui allait augmenter à peu près quoi, de 500 $ en moyenne, disons, selon les projections. Et quoi, tu veux nous proposer des moyens peut-être de mieux contrôler les dépenses en bouffe?
Mais je veux pas parler des gens qui sont déjà des gens optimaux. Tu sais, il y a des gens là, qui réussissent à prendre un poulet, comme disait M. Couillard, pour faire 8 recettes avec. Ceux-là, ils ont compris. Moi, je parle aux autres. T'sais, je dis, on devrait s'inspirer un peu de nos grands-parents. Mettons que ma grand-mère Léona débarquait à l'épicerie en 2019. Bon, elle est décédée, mais mettons.
Ouais.
Elle serait sidérée, Paul. Premièrement, tout ce qui est préfait, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu payes une marge pour ça? Les boîtes repas, là, tu sais, qu'on fait venir par Internet, là, tu sais, c'est 2 à 3 fois le coût de l'épicerie. Fait que là, ma grand-mère nous regarderait et elle dirait, excuse-moi, là, puis arrive, là, mais explique-moi ça, là. Toi, tu vas payer 2 à 3 fois plus cher ta poitrine de poulet parce qu'il te donne une recette avec. Moi, te donner mon truc de grand-mère. Fais-le une fois, apprends à cuisiner, puis après ça, achète ton poulet toi-même. Ouais, pas fou, grand-mère. Après ça, là, le restaurant, évidemment, je t'en parle pas parce qu'évidemment, ça, c'est 60-70% de marge, TPS, TVQ pour boire. Mais là, tu te souviens pas, je t'avais déjà souligné l'importance des taxes à l'épicerie. Les taxes à la consommation, ça oriente notre consommation. Vous voulez sauver 15% sur votre épicerie, c'est facile. Arrêtez d'acheter les choses qui sont taxables. Exemple, une boisson gazeuse, c'est taxable. Bon ben, bois de l'eau plate, ça c'est pas taxable. Puis c'est niaiseux. Tu sais, Paul, j'en ai parlé à Patrick hier, puis il riait, tu sais. Regarde nos aberrations sociétales. Si tu achètes une bouteille de 500 ml d'eau, elle est taxable. Mais une bouteille de 600 ml d'eau et plus, c'est pas taxable. Mais si tu achètes un paquet de 24 de bouteilles de 500 ml d'eau, là, c'est un format familial puis c'est pas taxable. Si tu achètes, tu dis, hey, je m'en vais m'acheter 5 croissants au coin de la rue.
Tu peux te poser une question simple. Pourquoi tu t'achètes une bouteille d'eau?
Ça, Paul. Là, Paul, écoute, toi, t'es rendu next level. Là. C'est
non,
sûr
non, mais.
T'as raison.
Écoute, j'en ai acheté souvent, longtemps. Puis après ça, à un moment donné, tu te dis, ben, c'est pas vrai, là. Tu sais, t'as pas besoin
ouais,
de.
Mais Paul, je vais te donner un argument. Le plomb à Montréal.
Ah, ben là, ouais. Mais
moi, je bois du plomb. J'accepte ça. De toute façon, je me dis, ça va peut-être me mettre un peu de plomb dans la tête. Mais on va être plus loin. Non, mais tout ce qui est chaud. Écoute, la plus grande aberration, c'est le poulet tout fait. Tu sais, le poulet tout fait, qui est le fun rôti à l'épicerie. Là.
Ouais, c'est parce que c'est pratique quand même.
C'est pratique, mais il est taxable. C'est... Mais si ton épicier dit, bon, je les ai pas toutes vendues, je vais les mettre dans le comptoir, ils les mettront au micro-ondes, là, ça devient pas taxable parce qu'il est fret. La crème glacée, là, tant qu'acheter un petit format individuel, achetez-vous un format familial. C'est pas taxable, mais individuel, ça l'est. Dernière chose, Paul. Tu sais, les fameux plateaux de crudité, là, tout fait à l'épicerie pour les fêtes d'enfants, c'est taxable. Parce que c'est tout fait. Ils ont coupé tes carottes, ils ont mis tes viandes froides d'une à côté de l'autre, ça devient taxable. Mais si t'achètes la grosse meule de fromage, tu coupes ça 6 secondes, c'est pas taxable. Tu sais, petite réflexion fiscale dans nos jours d'épicerie.
Merci, monsieur. Bonne journée. 7h20.